J'aimerais reprendre ce qu'on a fait la dernière fois et puis continuer, parce qu'on s'est arrêté en cours de route, un peu à moitié chemin. On est parti du texte de Romains chapitre 5, verset 18, qui dit: Comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. On avait dessiné ce texte pour essayer de le comprendre. On avait vu précédemment que l'on a deux problèmes majeurs. D'abord, le problème du péché et le problème des péchés. Le problème du péché, on l'avait vu en rapport avec ce texte qui est dans Romains chapitre 7, au verset 18 et suivant, où l'apôtre Paul dit qu'il veut faire le bien, mais qu'il ne peut pas. Il a la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Et il dit, il y a une loi en moi. C'est la loi qui fait que je suis constamment attiré vers le mal. Ça, c'est le problème du péché. Nous avons en nous cette nature corrompue dont nous avons hérité depuis Adam, qui, ayant coupé sa relation avec Dieu, a engendré selon sa ressemblance et non plus à la ressemblance de Dieu. Ça, c'est le premier problème que nous avons. Le deuxième problème que nous avons, ce sont les péchés, c'est-à-dire les fautes que nous commettons. Alors il y a ce texte dans Galates qui dit les œuvres de la chair sont évidentes et il y a toute une liste de problèmes qui sont des problèmes propres à l'humanité. On avait aussi vu ce texte de Matthieu 26, 26 et suivant. Pendant la Sainte Cène, Jésus dit que ce jus de raisin représente le sang de l'alliance répandu pour le pardon des péchés de beaucoup. Donc nous avons deux problèmes et il faut absolument que on trouve une solution aux deux problèmes. L'apôtre Paul ici, dans l'épître aux Romains chapitre 5, fait une comparaison entre les deux Adam. On va reprendre le dessin de ce texte. Adam numéro 1. Adam a été créé par Dieu sans péché, pur, innocent, mais il n'a pas maintenu son innocence parce que vous vous souvenez, au pied de l'arbre, il a croqué la pomme. Il a par conséquent désobéi à Dieu, il a changé de maître, il a choisi comme maître Satan plutôt que Dieu, il a fait confiance à Satan plutôt qu'à Dieu, il a mis sa foi en l'ennemi plutôt qu'en Dieu, par conséquent il a coupé sa relation avec Dieu, il a fait ce que Dieu n'avait dit de ne pas faire, le jour où tu en mangeras, tu mourras de mort. Et c'est ce qui est arrivé. On avait pris cette image du ventilateur pour exprimer ce qui est arrivé à Adam. Il a continué à vivre, mais il n'avait plus la vie éternelle. Il avait coupé sa relation avec Dieu, il était devenu mortel. Et on avait vu que dans sa descendance va se trouver toute la famille des pécheurs. Adam va entraîner dans sa chute toute l'humanité qui va être, si je peux employer cette expression-là, contaminée par le péché, par le mal, par la séparation. Or, le salaire du péché, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Et quand on dit la mort, on s'entend bien, c'est pas la mort sommeil qu'on connaît, c'est la mort éternelle, c'est la destruction totale. Ça, c'est la situation humaine, c'est la situation de la condition humaine qu'on avait décrite dans les fois précédentes, finalement. Nous en sommes là. Maintenant, nous avons un problème. Parce que moi, je suis quelque part ici. Je suis là, dans le flot de l'humanité. Et j'ai un problème parce que je n'ai pas choisi. Mais les conséquences sont pour moi inévitables. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais j'ai fait aucun choix. J'ai pas demandé à naître et j'ai pas demandé à mourir. Il y a là une injustice. C'est pas normal que je porte, moi, les conséquences du choix de quelqu'un d'autre. Et Dieu me répond, t'as raison. C'est pourquoi Dieu met sur pied un plan de sauvetage. Le texte nous disait, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, c'est ce qu'on a ici. L'offense, le péché de Adam, la coupure, est une coupure dont nous allons tous être les victimes, la mort. Mais le texte donne une comparaison. Et il dit, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même, De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie, c'est un à tous les hommes. L'apôtre Paul essaie de faire comprendre que la situation dans laquelle nous sommes n'est pas une situation fatale et inévitable. De la même manière que nous avons été entraînés vers la mort, le Seigneur, lui, a mis sur pied un plan qui est même plus puissant pour nous libérer de cette affaire-là. Alors, le plan que Dieu va mettre sur pied pour répondre à mon interpellation à son égard, c'est le plan en Jésus-Christ. Jésus-Christ va naître de l'humanité, mais il va aussi naître d'en haut, et lui va reprendre le défi que Adam n'a pas maintenu. Il va vivre une vie sans péché. Et on avait vu plusieurs textes en rapport avec ça. Le texte de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 par exemple, qui dit que celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Le texte de 1 Corinthiens 15 verset 22 et 23. 1 Corinthiens 15, 22, 23 est un texte parallèle à celui qu'on lit en réalité. Il dit « Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » On avait fait une fois une parenthèse importante en disant que Christ est le premier, les prémices de ceux qui sont ressuscités, parce que même s'il n'est pas le premier dans le temps, il est le premier en importance, parce que si lui ne ressuscite pas, personne ne peut. N'est-ce pas? Et c'est ce que l'apôtre Paul dit ici, chacun en son rang. Christ d'abord, parce que s'il ne ressuscite pas, il n'y a pas de résurrection possible. Et puis nous, grâce à ce que Jésus a fait, on peut être aussi ramené à la vie par lui.
Ceux qui sont avant Christ, qui vont ressusciter en même temps.
Même chose.
Eux n'ont pas connu Christ.
Non.
C'est par la loi qui s'en sauve.
Non. Non, c'est par la foi. C'est par la foi. Souvenez-vous, ceux qui sont morts avant la venue de Jésus et qui sont des croyants sont sauvés par la foi, pas par la loi. Exemple, Abraham, il est le père des croyants parce que le texte d'Hébreux nous dit il a été justifié, cela lui a été imputé à justice, parce que Abraham a eu la foi. Et tous les autres, c'est exactement la même chose. Tous ceux qui sont avant Jésus sont sauvés par la foi, et c'est cette foi qui les amène à obéir dans ce que Dieu leur donne à faire comme image de la manière dont Jésus va sauver l'humanité entière. Alors, tous meurent en Adam. Mais Dieu prévoit un plan pour nous sortir de là avec Adam numéro 2, dont il est question dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 45. L'apôtre Paul l'appelle le second Adam. Dans 1 Corinthiens 15, il est dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. L'apôtre Paul va comparer Jésus à Adam, parce que Adam qui est tombé laisse une situation catastrophique pour l'humanité. Adam numéro 2, Jésus, va relever le défi que Adam numéro 1 n'a pas relevé, mais lui va le mener à bien, parce qu'il va mener une vie sans péché. D'où Adam numéro 1 et Adam numéro 2. Adam numéro 2, lui, ne va pas pécher. Et on a ces textes qui parlent de Jésus, on en a aussi dans Hébreux chapitre 4, où il nous dit qu'il a été dans nos chaussures, mais sans commettre de péché. Et c'est important parce que si Jésus a une vie tachée par le péché, il est dans la même situation que nous. Jésus va donc relever le défi que Adam a laissé tomber. Il va lui sortir et de l'humanité parce qu'il est pleinement homme, et de la divinité parce qu'il est pleinement Dieu, et vivre une vie sans péché. Maintenant, quelle est la conséquence d'une vie sans péché? Si le salaire du péché, c'est la mort, la conséquence d'une vie sans péché, ça va être la vie éternelle. C'est la vie que Dieu avait donnée à l'être humain au commencement. Maintenant, on a dans notre texte une comparaison, où il nous est dit, et je reviens à Romains chapitre 5, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. on avait parlé du mot justification. Nous pouvons obtenir la justification, mais comment? Comment est-ce que nous pouvons obtenir la vie? Voilà, moi je suis ici, je suis condamné à mort parce que je suis un pécheur, mais j'apprends que Dieu a donné un plan de sauvetage à l'humanité et je veux être sauvé moi aussi. Comment est-ce que je peux me joindre à ce plan de sauvetage? On avait vu l'autre fois, le moyen par lequel je peux changer de famille, c'est le baptême. Et l'image ici est très forte, parce que ce que Dieu me propose finalement de faire maintenant, c'est de choisir de la même manière que Adam a choisi devant l'arbre, la vie ou la mort. Devant l'arbre, Adam a choisi ou la vie ou la mort. Il savait qu'en désobéissant à Dieu, il choisissait la mort. Moi, aujourd'hui, j'ai un choix de la même nature, mais un petit peu différent. Mon choix n'est pas un choix devant l'arbre, c'est un choix entre deux ancêtres. Soit Adam numéro 1, soit Adam numéro 2. Si je choisis d'appartenir à la famille d'Adam numéro 1, la conclusion est simple, je vais à la mort avec la famille des pécheurs. Si je veux appartenir à la famille d'Adam numéro 2, alors à ce moment-là, je vais à la vie. Comment est-ce que je peux passer de la famille des pécheurs à la famille des sauvés? Par le baptême. Et ici, le baptême prend tout son sens. Le baptême biblique, c'est quand on est plongé dans l'eau. Le mot baptême vient d'un mot grec qui veut dire plongé dans l'eau, immergé dans l'eau. Le baptême n'a de sens que s'il est un choix personnel par rapport au plan du salut que Dieu a proposé. Ce baptême, il est en réalité une image de ce que l'apôtre Paul explique dans Romains chapitre 6, où il dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Donc l'image du baptême, c'est une image de la mort à soi-même. Une image de la mort plongée dans l'eau et de la résurrection dans la famille de Jésus-Christ. Et vous avez remarqué, résurrection afin que nous marchions en nouveauté de vie. Un peu plus tard, on va regarder ce que c'est que cette nouvelle naissance, on va en regarder les ingrédients pour savoir à quoi elle correspond. Ce n'est pas l'eau du baptême qui va me sauver. Le baptême n'est en réalité que l'accomplissement d'une image, d'un symbole, qui représente une expérience personnelle que j'ai vécue avant. L'image du mariage explique bien ce qu'est le baptême. Si un jeune homme fréquente une jeune fille, qu'elle veut se marier, et que le gars est tout le temps en train de dire bah, « écoute, dans 6 mois, dans 3 mois, dans 1 an », finalement la fille elle va dire « bon, mais je suis pas sûr que tu m'aimes. Si tu n'es pas prêt à t'engager envers moi, il y a quelque chose qui ne marche pas. » Et inversement, si le gars dit « ah ben on se marie », mais qu'il ne vit pas une relation de couple saine et qu'il va papillonner partout, il n'y a pas d'engagement non plus. Donc l'accomplissement du geste du baptême n'est pas ce qui nous sauve. Il n'est jamais que la conclusion, l'expression d'une expérience personnelle que j'ai vécue en apprenant à connaître le Christ, en découvrant ce qu'il a fait pour moi, en apprenant à l'aimer, à lui faire confiance, c'est-à-dire avoir la foi, et en acceptant le plan qu'il m'a proposé. Le baptême va être l'expression de mon engagement à recevoir le plan que Dieu m'a offert en Jésus-Christ. Le baptême, c'est cette image d'une mort et d'une résurrection. J'ai par conséquent renié mon appartenance à Adam numéro 1, et j'ai accepté par la foi d'appartenir à la descendance spirituelle de Adam numéro 2 de Jésus, qui lui va me donner la justification. Justification, c'est un mot compliqué qui en fait a un sens très simple. Le mot français le plus proche de justification, c'est gracier. On ne peut gracier que quelqu'un qui a d'abord été reconnu coupable. Et nous sommes coupables. C'est la raison pour laquelle nous pouvons être justifiés. Et justifié dans le sens biblique ne veut pas dire rendre juste, mais veut dire considérer comme juste. Il y a une grosse différence. Justifier ne veut pas dire rendre juste. Justifier veut dire considérer quelqu'un comme juste. Rendre quelqu'un juste, c'est faire que cette personne soit juste. Considérer quelqu'un comme juste, ça veut dire pardonner cette personne et lui donner les privilèges de celui qui n'est pas coupable, mais il l'est. Et on avait vu à ce propos-là un texte très intéressant dans Colossiens, et on va le relire. Colossiens 3, 1 à 4.
Mais vous qui êtes aussi ressuscités avec le Christ, recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non celles qui appartiennent à la terre, car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous apparaîtrez vous aussi avec lui en partageant sa gloire.
Alors le texte nous dit ici, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, de qui parle-t-il? Ceux qui sont ressuscités avec Christ, ce sont ceux qui ont vécu l'expérience dont on a parlé tout à l'heure dans Romains, dans les premiers versets du chapitre 6, et qui ont vécu l'expérience du baptême, qui sont morts avec Christ dans le baptême et qui sont ressuscités par la foi en Jésus-Christ, donc des gens qui sont des croyants. Et il est dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 3. Car vous êtes morts. Et c'est là que j'ai un problème. Parce que j'ai accepté le baptême précisément pour avoir la vie. Et ayant été baptisé, je suis considéré comme ayant été ressuscité en Christ. Et l'apôtre Paul dit, vous êtes mort, mais votre vie est cachée avec Christ en Dieu. En fait, par le baptême, je reçois la promesse et l'assurance du salut en Jésus-Christ. Mais je suis encore un pécheur. Je suis mort. Je suis mort parce que la justification ne m'a pas rendu juste, elle m'a permis d'être considéré comme juste. Je suis caché. Et je vous avais donné l'exemple de la cour d'école. Quand j'étais gamin, il y avait une récréation. Et les gamins, on courait tous dans la cour pendant une demi-heure. Et à la fin de la récréation, la cloche sonnait. Il fallait qu'on se mette en rang devant le professeur. Alors, il y avait deux rangs, c'était un paquet de gamins. Et pour avoir un joli rang, le prof se mettait devant et disait « Je ne veux voir qu'une seule tête. » La tête du premier de la ligne. Et on devait tous se cacher derrière la tête de celui qui était devant nous. Et de cette façon-là, on était tous en ligne et le prof ne voyait que la tête du premier. L'image, c'est exactement ce qu'on a dans notre texte. Jésus est le premier et nous sommes tous cachés derrière. Nous sommes encore des pécheurs. Nous sommes graciés, c'est-à-dire que nous sommes condamnés, mais pardonnés. Parce que nous sommes cachés derrière Jésus-Christ, lorsque Dieu, dans le jugement, nous regarde, ce n'est pas nous qu'il voit, c'est Christ, parce que Christ est notre
avocat.
Il est notre avocat. C'est le texte que nous avons dans la première épître de Jean. Je fais référence au texte de 1 Jean, chapitre 2, verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Notez, c'est ici une parenthèse, que le mot « avocat » qui est employé ici, c'est le même mot que le consolateur. Ce mot « paraclétos » qui prend cette signification de celui qui est à côté de moi pour me défendre.
Une fois que tu es rendu à accepter le baptême, il y a des changements qui s'opèrent à l'intérieur de toi. Donc, le baptême en surplus aide les changements, l'avancement de ta foi.
La foi, le synonyme exact de foi, en français, c'est confiance. La confiance, c'est quelque chose qui peut grandir. La confiance en quelqu'un va grandir au fur et à mesure que je vais apprendre à connaître cette personne, que je vais apprendre à aimer cette personne davantage. Il en est de même avec Dieu. Donc ma foi est destinée à grandir constamment parce que si je m'arrête à un niveau, si je suis bloqué quelque part dans la croissance de ma foi, je vais être en même temps bloqué dans la croissance de ma relation avec Dieu. La foi, c'est avoir confiance. Si ma confiance en Dieu ne va pas croissante, ma relation avec lui est stagnante. Ouais. Avoir la foi, ce n'est pas avoir une croyance, c'est avoir une relation avec quelqu'un.
Okay.
si je veux faire de plus en plus confiance en Dieu, si je veux avoir de plus en plus la foi en Dieu, il faut que j'apprenne à le connaître.
Exactement. La foi vient de ce qu'on entend, dit l'Épître aux Hébreux, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vais reprendre l'exemple du mariage, l'exemple qu'on avait pris tout à l'heure par rapport au baptême. Vous avez déjà vu probablement des personnes âgées, un vieux couple, des gens qui ont passé toute leur vie ensemble. Ils finissent par se ressembler. Ils finissent par se ressembler physiquement et se ressembler de caractère. Pourquoi ? Parce qu'avec le temps, ils ont développé une communion de plus en plus étroite qui leur a permis de vivre ensemble à la ressemblance l'un de l'autre. C'est exactement ce que le Seigneur Jésus me propose de faire avec lui. Ce que j'essayais de vous expliquer, c'est que être justifié, recevoir la justification de Dieu, ne fait pas de moi un saint, dans le sens traditionnel du mot. Ça fait de moi un pécheur pardonné. Le texte de Colossiens 3, qui nous dit « Vous êtes mort, mais votre vie est cachée en Dieu », exprime bien cette notion de justifié, par laquelle nous sommes pardonnés, graciés, mais nous sommes encore des pécheurs. Le texte dit « Vous êtes mort, et je suis encore mortel ». Mais dans le jugement, lorsque Dieu me juge, ce n'est pas moi qui le vois, c'est celui derrière qui je suis caché, qui est Jésus-Christ. Quand je parle du baptême, je ne parle pas de la cérémonie du baptême, je parle de toute l'expérience qui aboutit au baptême. Expérience qu'on va décortiquer après en morceaux pour qu'on en voie les quatre étapes principales. Maintenant, j'aimerais lire avec vous un texte qui me paraît très important parce que ce texte me donne les conséquences de ce que veut dire être justifié par Jésus-Christ. Regardez dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, le verset 23 et 24.
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.
Merci. La situation de l'être humain est décrite là. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, nous sommes tous dans le même bateau. Et ils sont, gratuitement, justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. Vous remarquez que l'apôtre Paul ici est en train d'insister en employant quatre mots qui sont plus ou moins synonymes pour nous faire comprendre la puissance du plan de Dieu à l'égard de chaque individu qu'il accepte. Il répète finalement quatre fois la même chose. Gratuitement, justifié, grâce, rédemption. Comme pour dire, si vous ne comprenez pas après ça, mes amis, je ne sais pas comment il faut le dire. Gratuitement, ça veut dire quoi, gratuitement? Ça veut dire que j'ai rien à faire, rien à payer. Justifié, ça veut dire que je suis considéré juste alors que je ne le suis pas. La grâce, c'est la même chose. J'ai reçu la grâce parce que je ne la mérite pas. Je ne vais pas donner la grâce à quelqu'un qui n'est pas coupable. La rédemption, c'est être racheté. Acheté une deuxième fois. Mais qui a payé pour que je sois acheté? C'est Jésus, n'est-ce pas? Donc ces quatre mots, qui ont un sens légèrement différent, sont en train de dire finalement, malgré tout, la même chose. Si vous acceptez le plan du salut par la foi en Jésus, vous êtes sauvé gratuitement. Autrement dit, lorsque, ayant découvert l'amour du Christ pour moi, j'accepte ce qu'il a fait pour me sauver et que je rentre dans le plan du salut en vivant l'expérience du baptême, je deviens membre de la famille de Jésus-Christ et je suis regardé par Dieu comme si je n'avais jamais péché. C'est le sens de justifier. Mais est-ce que vous réalisez la grandeur de l'amour de Dieu qui va jusqu'à nous offrir ça? Et on avait vu le texte qui se trouve dans Galates chapitre 3, Galates chapitre 3, versets 26 et 27. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Il s'adresse ici à ceux qui ont été baptisés, qui ont vécu cette expérience dont je parlais à un instant. Et ils sont appelés comment? Ils sont appelés fils et filles de Dieu. Quand on parle du fils de Dieu, on parle de Jésus. Et ici, ce texte est en train de nous dire, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, sont regardés par Dieu de la même manière qu'il regarde Jésus. Or, quand Dieu regarde Jésus, est-ce qu'il voit le péché en lui? Non. S'il ne voit pas le péché en lui, quelle est la conséquence? Sauvé. Vie éternelle. Dieu nous regarde, quand on accepte son plan de cette façon-là, comme si on n'avait jamais péché. Ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que le plan que Dieu a mis sur pied pour que je puisse être sauvé est un plan qui demande de ma part une acceptation, une confiance, un amour, une expérience de relation avec Dieu. Souvenez-vous, on avait défini le péché comme une cassure. Si je veux résoudre le problème du péché, qu'est-ce que je dois faire?
Réparer la cassure.
Renouer avec Dieu. Renouer avec Dieu, c'est l'expérience qui gravite autour du baptême et tout ce que cela comprend. Maintenant, j'ai rétabli ma relation avec Dieu, j'ai accepté le baptême, je suis sauvé parce que j'ai accepté ce que Jésus a fait pour moi. Mais je suis encore un pécheur, je suis encore sur la terre et je commets encore des péchés. La justification a résolu le problème du péché, mais il reste le problème des péchés. Il faut que je trouve la solution que Dieu a donnée au problème des péchés. Parce que ma vie continue. Vrai, je suis caché en Jésus-Christ. J'ai reçu de sa part le salut. Mais je continue à être entaché par le mal qui est collé à moi. Et je vais moi-même continuer à commettre des fautes. On va regarder un exemple dans Galates chapitre 5. Galates 5, verset 19. 19 à 22.
Tout le monde voit bien ce qui précède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, la rivalité, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part de l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la patience, la paix, la joie, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses.
Merci. On a ici une liste qui n'est évidemment pas exhaustive. Des péchés. Au verset 19, les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont débauches, impuretés, dérèglements, etc., etc. Il nous faut trouver une solution à ce problème-là. Alors, je vous pose une question. Dans le plan de Dieu, il a prévu que lorsque j'accepte son plan et que j'accepte ce que Jésus a fait pour moi, j'accepte son pardon, cette expérience va s'exprimer par l'expérience du baptême. Cette expérience du baptême va résoudre le problème du péché singulier. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour marquer l'expérience par laquelle je vais être vainqueur des péchés? Dieu a donné le baptême comme le symbole qui exprime cette expérience par laquelle je suis pardonné, justifié et le problème du péché est résolu dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu a donné comme image, comme symbole, par laquelle l'expérience de la victoire sur les péchés va s'exprimer? Le plan de Dieu pour nous sauver est un plan complet. Dieu ne veut pas simplement nous pardonner, Dieu veut aussi nous permettre d'être transformés et de restaurer en nous l'image de son caractère. Le plan du salut n'est pas complet si je ne prends qu'une partie de ce plan et que je n'accepte pas de marcher avec lui en nouveauté de vie. Mais cette nouveauté de vie, elle va s'exprimer par des victoires sur les péchés. L'action du Saint-Esprit est l'agent par lequel cette transformation va se faire. Mais de même que le baptême est le symbole par lequel Dieu nous donne d'exprimer l'expérience du salut par lequel le péché est résolu, qu'est-ce que Dieu nous a donné pour symboliser l'expérience par laquelle la victoire sur les péchés est aussi vécu. C'est ce qu'on appelle généralement le service de communion. De la même manière que Dieu a donné le baptême comme symbole de l'expérience par laquelle, en acceptant Jésus, je reçois la solution au problème du péché, le Seigneur me donne la Sainte Cène, le service de communion, comme le symbole de ma victoire sur les péchés. Regardons à quoi ça correspond. Pour ça, on va lire un texte, Évangile de Jean, chapitre 13, versets 2 à 17.
Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. »
Merci. On a dans l'évangile de Jean le récit du lavement des pieds au moment où Jésus a célébré la dernière Pâque avec ses disciples. On a dans les autres évangiles le récit du repas que Jésus a célébré, durant lequel il a transformé la Pâque de symbole de sa mort en souvenir de sa mort. « Faites ceci en mémoire de moi, » disait-il. Mais vous n'avez pas dans les autres évangiles, dans les évangiles synoptiques, vous n'avez pas le récit du lavement des pieds. Vous l'avez ici. Jean n'a pas rapporté le récit du repas parce que les autres évangélistes l'avaient fait largement. Mais il y a ici, dans ce texte, quelque chose d'extrêmement important. Vous avez remarqué, il va laver les pieds des disciples, qui est une pratique commune parce que c'est en réalité l'usage. Lorsque quelqu'un est invité dans une maison, il y a là un esclave qui vient, qui lui lave les pieds. N'oubliez pas, c'est une civilisation orientale. Les gens portent des sandales, ils font tout à pied sur des chemins poussiéreux. Ils viennent chez quelqu'un, on leur lave les pieds avec de l'eau fraîche. Ils viennent ici dans la chambre haute pour célébrer la dernière Pâque. Personne n'a lavé les pieds à personne. Parce que laver les pieds, c'est la tâche du serviteur. C'est la tâche de l'inférieur. Maintenant, Jésus célèbre la Pâque avec ses disciples. Et à un moment donné, il va faire ce que personne n'attend. Il va enlever le vêtement du dessus, il va prendre un linge. Et il va commencer à laver les pieds. Il va s'approcher de Judas, il va lui laver les pieds. Il va prendre les autres, et il va arriver à Pierre. Avant d'arriver à Pierre, les disciples sont pétrifiés, c'est le cas de le dire. Jésus est en train de faire le sale boulot que personne n'a voulu faire. Parce que Pierre, lui, ben c'est Pierre. Jean, moi je suis le chouchou du Seigneur. Judas, je suis le trésorier. C'est pas moi qui vais faire ça. Qui va le faire? Aucun d'eux ne se considère suffisamment humble pour pouvoir le faire. Pas de problème. On va célébrer la Pâque. Et à un moment, Jésus va laver les pieds des disciples. Disent rien. Arrivé à Pierre, il dit, « Non, non, Seigneur, non, c'est trop, tu ne me laveras pas les pieds. » Et Jésus lui dit, « Écoute, tu comprendras plus tard. » Pierre insiste et dit, « Non, tu ne me laveras pas les pieds. » Tête dure. Jésus lui dit, « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » « Oh, lave tout !» Lave la tête, lave les mains. Et Et Jésus lui dit, cette phrase qui est extrêmement importante, « Celui qui est baigné, qui est lavé, verset 10, n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. » Jésus dit ici, « Celui qui est lavé, entendez par là, celui qui est baptisé, n'a besoin que de laver ses pieds pour être... » Il ne dit pas que celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être pur. Pour être
entièrement pur.
Entièrement pur. Ce qui veut dire que celui qui est baptisé et qui, avec le temps, a accumulé toutes ses fautes, tous ses péchés, si l'on peut dire, celui qui a avancé dans la vie et qui s'est trouvé encombré de tous ses péchés, vient à la Sainte-Seine, et on va découvrir plus tard tout ce qui va avec. Encore une fois, c'est un symbole qui est l'expression d'une expérience personnelle. Mais en arrivant à la Sainte-Seine, il va pratiquer le lavement des pieds, pour lequel Jésus dit « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. » Ce qui veut dire que, ayant été baptisé, ayant conscience d'être encore un pécheur qui pêche, lorsque je viens à la Sainte-Seine et que je pratique le lavement des pieds, selon Jésus, je me retrouve dans la même situation où je suis en sortant de mon baptême. Parce que je suis capable de confesser les péchés dont j'ai conscience. Mais nous commettons aussi plein de fautes, sans le savoir, parce que nous sommes pécheurs. Comment est-ce que toutes ces fautes vont être effacées si je ne les confesse pas? La Sainte-Seine, dont le lavement des pieds fait partie, est le moyen par lequel je peux avoir la solution au problème des péchés. La Sainte-Seine faisant partie de tout un programme que Dieu a mis sur pied, non plus cette fois pour que je sois considéré comme juste et que le problème du péché soit résolu, mais pour que je sois transformé et que de victoire en victoire, je vive ce qu'on appelle dans le terme biblique la sanctification et que le problème des péchés trouve sa solution.
Pensez que c'est vraiment important de se laver. Ben moi, je trouve ça compliqué, ça me tente pas, là, finalement, tout ce...
Alors, je vous réponds en lisant un texte. Jean 13, verset 14. « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Si vous savez ces choses... Vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez.
C'est une expérience personnelle, là, qui, peut-être par rapport à ce que toi tu dis là. Puis ça m'est arrivé que je me suis ramassée dans une pièce, dans une salle, avec la personne en question, puis il fallait qu'on fasse ça. C'est pas arrivé dans le sens qu'il fallait que je la lave à cette personne-là, mais qu'on était tous dans la même pièce. Okay. Puis là, je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, ouais. Maintenant, il y a une possibilité que je tombe à laver les pieds de cette personne en face de moi.
Ça ne me tente pas. Pourquoi? J'y en veux. Dans le sens que c'est une personne qui, dans ma tête, pour moi, a fait beaucoup de mal dans mon entourage. Okay.
Ça prend vraiment d'avoir reçu le pardon de Dieu pour être capable de le faire.
C'est peut-être, bon, c'est peut-être, vous allez peut-être dire, bon, c'est pas de notre actualité, c'est pas de notre époque ou quoi que ce soit, mais il y a une chose quand même, c'est que pour arriver à faire ça, même si c'est pas de notre époque, ça prend que tu pardonnes à la personne, puis c'est là que Dieu veut t'amener ultimement. Tantôt, on a parlé du baptême comme étant un acte qu'on pose, un geste qu'on pose pour démontrer quelque chose. Par rapport à la Sainte-Seine, je comprends le symbole, mais maintenant, comment est-ce que tu lis ce qu'on appelle la sanctification avec la Sainte-Seine? Parce que moi, quand je pense justification par rapport au problème du péché, je pense à sanctification pour le problème des péchés.
C'est ce que j'essaye de progressivement de vous montrer. C'est que justification, c'est un mot compliqué pour parler de la solution au péché, et sanctification, c'est un mot compliqué pour parler de la solution au péché pluriel, des péchés. Pourquoi est-ce que j'amène la Sainte-Seine en rapport avec les péchés? C'est parce que je suis appelé à vivre en nouveauté de vie. Je suis appelé, bien que je sois pécheur, à ouvrir la porte pour que Dieu, par son esprit, me rende vainqueur sur les péchés. Lorsque je vis la Sainte Cène, c'est pour moi l'occasion de faire le bilan dans ma vie et de savoir où j'en suis par rapport à ma marche avec Dieu. La Sainte Cène n'est pas simplement un rite par lequel je peux remettre les pendules à zéro et puis c'est bon, je peux continuer à vivre comme je veux. C'est l'occasion de faire le point dans ma marche avec Dieu, parce que si, depuis 5 ans, je demande pardon à Dieu pour toujours le même problème, il y a peut-être quelque chose de différent à faire pour arriver à la victoire là-dessus. D'être confronté à moi-même à intervalles réguliers pour me présenter à Dieu et lui demander d'effacer mes fautes, c'est pour moi l'occasion de lui dire « Regarde Seigneur où j'en suis ». C'est pour moi l'occasion de lui dire « Je ne te demande pas simplement Seigneur de me pardonner et de me rendre entièrement pur. Je te demande en plus de me donner par ton esprit la force qui vient de toi pour que je puisse être vainqueur. » Alors regardez un texte justement là-dessus, dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Et c'est comme ça que je fais le lien avec tout le programme de sanctification que l'on va regarder un peu plus en détail et que l'on peut comprendre d'une façon simple en parlant de transformation. Hébreux chapitre 2, versets 17 et 18.
En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés.
Merci. On a ici une image qui est employée pour parler de Jésus comme étant le souverain sacrificateur. Le rôle du sacrificateur, on le verra plus tard, est un rôle en particulier d'intercession. Jésus est présenté par l'apôtre Paul dans l'Épître à Timothée comme le seul intercesseur entre Dieu et l'humanité. Celui qui va intercéder. Celui qui intercède pour nous, il fait aussi l'expiation. Il nous apporte le pardon. Mais ayant lui aussi vécu dans nos chaussures, ayant souffert pour nous, il a reçu de Dieu le moyen de nous apporter le secours. Et c'est ce que Jésus explique dans Jean 14 et dans Jean 16, où il dit qu'il va demander au Père de nous envoyer son esprit et que c'est par ce moyen-là que nous allons pouvoir grandir dans notre foi. D'ailleurs, on est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu ne nous donne pas simplement une Mercedes toute neuve, il nous donne aussi le carburant pour qu'elle marche. Et c'est comme ça que je fais le lien avec la sanctification. La Sainte Cène est en réalité le moyen pour moi de faire le point à intervalles réguliers dans ma marche avec Dieu pour savoir si j'avance ou si je recule. Souvenez-vous, dans la chambre haute, les disciples ont un problème. C'est quoi le problème qu'ils ont dans la chambre haute? L'orgueil, c'est-à-dire qu'ils se considèrent tous comme meilleurs les uns que les autres. Meilleurs au point où ils ne veulent pas servir. Et Jésus leur dit... en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Jésus est en train de faire quelque chose qui va humilier les disciples au plus haut point, parce qu'ils disent, tu es le Maître et le Seigneur. Parfait. Bien, celui qu'ils considèrent comme le Maître, le Seigneur, comme le Fils de Dieu, c'est lui qui va faire le sale boulot que eux, pécheurs, ne veulent pas faire. Autrement dit, ils vont prendre tous une claque magistrale, parce que Jésus est en train de leur dire, je suis Dieu. Je suis venu pour vous sauver. Mais vous vous prenez pour qui? Je suis en train d'aller au sacrifice pour vous, et vous, vous ne voulez même pas vous laver les pieds les uns aux autres et vous humilier les uns devant les autres, alors que vous êtes des pécheurs tous dans la même situation? Et pour bien montrer que lui est prêt à aller jusqu'au sacrifice suprême, il va leur laver les pieds à chacun, à commencer par Judas. Par rapport au baptême, dans 1 Pierre chapitre 3, il est dit « Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » Le baptême n'est pas pour me laver, j'ai une salle de bain pour ça.
Ouais.
Le lavement des pieds de la Sainte Cène, ce n'est pas pour avoir des pieds propres, j'ai aussi une salle de bain pour ça. C'est un symbole lié à une expérience que je vis vis-à-vis de Dieu et des autres. Pourquoi est-ce que je pratiquerais le baptême et pas le lavement des pieds, alors que les deux sont liés l'un à l'autre? Il n'y a aucune indication dans les Écritures sur la fréquence à laquelle ça doit être pratiqué. Alors, on a choisi dans l'Église adventiste une fréquence qui est entre le trop souvent et le trop peu souvent. On choisit de le faire environ, à peu près, une fois par trimestre. C'est-à-dire, lavement des pieds, le pain et le jus de raisin pour tout le monde.
Pourquoi tu dis jus de raisin, c'est pas supposé être du vin?
Quand on prend la Sainte Cène, on utilise les deux symboles qui sont dans les Écritures, le pain et le vin. Étant entendu que dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'un mot, oinos, pour vin. Est-ce que c'est du vin alcoolisé ou est-ce que c'est du jus de raisin? Il suffit de réfléchir. Le pain qui est présenté dans le repas de la Sainte Cène, c'est du pain sans levain. Parce que dans la Bible, le levain, la fermentation, est un symbole du péché. Si j'utilise du pain pour représenter Jésus, il faut que je prenne nécessairement du pain sans levain, c'est-à-dire un symbole dans lequel il n'y a pas le symbole du péché. Mais si je prends le vin alcoolisé, je casse complètement la signification parce que il y a dans le vin alcoolisé la fermentation. Donc je suis en train d'utiliser un symbole qui est un symbole véritablement blasphématoire parce que je suis en train d'utiliser un symbole qui représente Jésus et dans lequel il y a le péché. Je ne peux pas utiliser le symbole de la Sainte Cène pour recevoir le pardon des péchés en utilisant l'image qui m'est donnée que mon sauveur est un pécheur. Je ne suis pas sauvé avec ça. En rapport avec le lavement des pieds, il y a des gens qui étaient à l'étude de la parole de Dieu et qui ont découvert ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire la valeur du lavement des pieds en rapport avec la Sainte Cène. Et ce monsieur a dit, mais moi, je suis trop orgueilleux, je n'arrive pas à faire ça. Et cet homme a lutté pendant des mois avec lui-même par rapport à ça. Et un jour, on a eu la Sainte Cène à l'église. Et on l'a invité à venir. Et il y a eu une lutte énorme avec lui. Et j'ai vu cet homme, pour la première fois de sa vie, laver les pieds à quelqu'un. Cet homme a pleuré en lavant les pieds de son frère dans la foi. Il a pleuré. Parce que ça représentait pour lui une lutte énorme et une victoire du Christ sur lui-même. Le plan que Jésus nous offre est un plan qui nous permet d'être sauvés pleinement grâce à ce qu'il offre à chacun d'entre nous. Et ce que je vous propose, c'est de le prendre dans son entier. Dans Jean 15, Jésus dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et quand Jésus dit « rien », c'est rien. Jean 15, verset 5. Et dans Philippiens, l'apôtre Paul écrit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » C'est vrai que le Seigneur m'appelle à la transformation, mais il me rappelle que par ma force, à moi, je ne peux pas. L'apôtre Paul avait dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir. Par contre, Dieu me dit, ce pouvoir-là, moi, je l'ai. Si tu le veux, je te le donne. Si tu le veux. Parce que je n'arriverai pas à changer mon caractère. Je n'arriverai pas à changer mes habitudes. Je n'arriverai pas à changer ma nature. Dieu peut. Et il ne pourra que dans la mesure où j'aurai rétabli avec lui le courant, le lien suffisamment fort pour que le courant puisse passer. Et Dieu va me donner les moyens de raccrocher, de reconstruire, de conserver, d'intensifier, de solidifier, d'améliorer, de fortifier le lien que j'ai créé dans le baptême. Ce lien, Dieu va me donner les moyens de le faire. Mais moi, être humain, je vais toujours être tenté d'aller chercher mes moyens pour le faire. Et c'est là que se trouve la lutte. Parce que de toute façon, j'y arriverai pas. La lutte va être de constamment choisir ses moyens à lui et pas les miens à moi. On va prier. Notre Dieu, notre Père, ce soir encore, nous voulons te louer, te remercier, t'adorer pour ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Nous voulons te remercier de ce que tu nous apportes une solution complète au problème du péché. Et nous te demandons, Seigneur, trouve en nous des cœurs disposés pour nous abandonner à toi et pour recevoir ce plan dans sa totalité. Seigneur, nous reconnaissons que nous ne pouvons pas par nous-mêmes, et nous te demandons de nous accorder cette puissance qui est en Jésus-Christ, que tu as promis de nous donner par ton Saint-Esprit, puissance par laquelle tu veux restaurer en nous l'image du caractère de Dieu. Seigneur, nous avons hâte de pouvoir te ressembler. Donne-nous cette envie de te rencontrer chaque jour par la prière, par l'étude de ta parole, pour que dans ce contact, tu puisses nous donner la grâce d'être restauré à ton image. Seigneur, bénis pour nous l'étude de ta parole, qu'elle soit source de vie, source de paix, source de joie. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus, notre divin Sauveur. Amen.